Bonjour à tous et merci d'écouter le Mag du Tarn sur CFM Radio. Le 6 et 13 décembre prochain, nous allons voter pour les élections régionales. En ce qui nous concerne, la future grande région rassemblera le Midi-Pyrénées au Languedoc-Roussillon. Et en lice, pas moins de 11 listes sont candidates pour ces régionales. Vous avez dû ou vous allez recevoir la profession de foi des différentes listes dans vos boîtes aux lettres. Alors sur CFM Corde, nous ne recevrons pas les têtes de liste ni leurs représentants. Nous avons plutôt opté d'essayer de comprendre quels sont les enjeux majeurs de cette future grande région. Et pour débuter cette série d'émissions sur le sujet, je reçois aujourd'hui Monsieur Didier Sommen. Bonjour Monsieur Sommen.
Bonjour.
Vous êtes Monsieur Sommen, maire d'Étaïs et président de la communauté de communes du Carmozin-Ségala,
oui.
Également membre du PEI, le PETR. Donc plusieurs fonctions qui vous donnent une sorte de légitimité à venir nous parler des régionales, parce que au travers de toutes vos fonctions, vous serez impacté d'une manière ou d'une autre par cette future grande région.
Absolument.
Nous allons essayer de voir avec vous quels sont les enjeux majeurs de cette régionalisation. Il y a quelques mois, vous aviez été invité à participer au dialogue de comptoir, un café citoyen de Carmo, pour évoquer ce sujet des régionales avec les Carmozins. On va commencer par, on va dire, la pilule. Il faut dire que ces élections régionales, elles intéressent peu les gens. Est-ce que vous le ressentez ou ce n'est qu'une impression, on va dire, de journaliste ?
Oh, c'est compliqué. C'est vrai que en plus de ça, dans la période que nous traversons,
exactement, oui,
qui des problèmes d'une autre nature font que les régionales ont été d'ailleurs suspendues
la campagne,
ces derniers jours, la campagne en tout cas. Mm-hmm. C'est vrai qu'elle reprend et que là, on se rapproche de l'échéance du 6 décembre. C'est vrai que l'impact des régionales n'est peut-être pas aussi marqué que peut l'être effectivement une élection municipale, élection législative.
Mm-hmm.
Surtout que la région aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé, fusionne au 1er janvier de cette année 2016 et que les deux régions de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon vont créer un nouveau bloc assez important, et
ah
c'est
ben
vrai
oui.
que ça va changer un petit peu la vie de tout le monde, en tout cas des institutions et des personnes qui avaient affaire avec la région ou avec les régions ou avec ces régions-là en tout cas.
La région va être amenée à gérer quand même des questions essentielles pour les habitants d'un territoire, et pourtant on a l'impression, en tout cas lorsqu'on discute même de manière informelle avec nos concitoyens, les voisins, les passants, on a l'impression que tout le monde s'en fout un peu de ça, alors que c'est une élection tout de même importante. Est-ce que c'est la dilution des pouvoirs, des compétences entre l'Europe, Paris, région, département, interco, mairie, qui sape un peu les cartes ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle effectivement de notre spécificité française, ce fameux millefeuille administratif où les gens ont du mal à se reconnaître dans les différents échelons de l'organisation de notre République, en tout cas, avec un certain nombre de collectivités locales, et notamment la région qui fait partie effectivement des collectivités locales au même titre que les départements.
Alors le 7 août 2015, la loi NOTRe, donc nouvelle organisation territoriale de la République, est votée. De 22 régions, on passe aujourd'hui à 13, avec un transfert de compétences, notamment des départements aux régions. Pour vous, s'il faut résumer en quelques mots ou en plusieurs points, quels sont les enjeux principaux de cette régionalisation ? Il y en a beaucoup.
Il y en a un certain nombre. On a des interrogations. C'est vrai que la loi NOTRe introduit un certain nombre de nouveautés sur les régions, mais sur l'organisation du territoire en général. La loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation des territoires de la République. Hein. C'est ce que signifie cet acronyme. Oui. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne la région, les régions et les départements, d'ailleurs, ont perdu la compétence générale.
La fameuse clause.
Ouais. Clause de compétences générales au profit d'un certain nombre de compétences particulières et directes qui leur sont allouées. Pour faire simple, le département va conserver tout ce qui est le social et les régions vont prendre en compte tout ce qui est le développement économique, notamment le transport,
l'emploi,
les lycées, l'enseignement. Donc c'est vrai, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'ils avaient auparavant,
oui.
Moi, à mon avis, ce qui va changer, c'est effectivement de savoir comment ça va s'articuler sur un territoire régional aussi vaste. En plus de ça, sur Midi-Pyrénées, la région dans laquelle nous étions, nous avions affaire à une métropole régionale.
Mm-hmm.
où d'ailleurs le département du Tarn et notre département étaient le deuxième de Midi-Pyrénées. La nouvelle région va avoir aussi notre métropole, Montpellier, mais va aussi avoir des départements qui sont bien plus peuplés que le département du Tarn, que ce soit l'Hérault, que ce soit les Pyrénées-Orientales, etc. Donc ça va quand même changer un petit peu la face de la relation, en tout cas au sein de la future... unité régionale. Voilà, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Et la deuxième question par rapport à la relation à nos territoires, c'est vrai qu'aujourd'hui, la région participait à des animations, notamment dans le cadre du pays, du PETR, il y avait une participation à l'ingénierie du pays, à l'animation, effectivement, qui se retranscrivait après auprès des communes et des
différents acteurs.
Voilà, sur les différents acteurs. Et aujourd'hui, est-ce que ces politiques-là seront maintenues? Oui, elles sont maintenues dans le proche immédiat. Mais ce qu'il faut essayer de savoir, ça sera si elles seront maintenues dans l'avenir. Il est vrai que les deux régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, n'avaient pas tout à fait les mêmes, les mêmes actions territoriales, n'étaient pas organisées de la même façon, n'avaient même pas les mêmes volontés
besoins,
politiques,
les mêmes attentes.
Par exemple à destination du tourisme, par exemple à destination effectivement du développement économique. Donc, tout ça, ça va se mettre en place.
Donc moi, là, je
suis optimiste hein, sur le fait de penser que c'est certainement, à mon sens, une bonne chose. Alors après, par rapport à votre question sur le citoyen qui n'est pas directement lié à l'organisation des territoires, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu interrogatif, je l'admets très bien, hein, parce que les régions s'occupaient au plus proche de nous, je dirais, la région s'occupait quand même du transport, les TER, hein, les trains régionaux, hein, on a tous pris plus ou moins, s'occupait quand même de nos lycées, hein, donc au plus près.
De l'enseignement supérieur à
Albi, par exemple, avec l'université de Champollion, etc. Donc, je pense que tout ça va continuer à se développer. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Le questionnement pour chacun d'entre nous, c'est de dire maintenant, la région devenant plus grosse, elle va être un peu plus lointaine. Voilà.
Ah ben oui, parce que maintenant, il y a ce bicéphalisme avec les deux métropoles, les deux futures grandes métropoles qui vont faire partie de cette région, Montpellier et Toulouse. Qu'est-ce qui va être à Montpellier? Qu'est-ce qui va être à Toulouse? Ils vont se partager un peu
les services. Les services, oui.
Donc,
il y a des services dans le cadre effectivement de la région en tant que collectivité, mais il y a aussi tout ce qui était les services de l'État dans le cadre de la préfecture de la région, par exemple, avec les grandes directions de l'État, que ça soit par exemple l'ARS, tout ce qui concernait la santé ce qui concernait effectivement l'agriculture, l'équipement,
l'emploi,
la loi NOTRe aussi, hein, modifie aussi les choses à un niveau local, hein, puisqu'aujourd'hui on est dans la consultation de l'établissement d'un nouveau schéma de la coopération intercommunale au niveau départemental, donc vous voyez, les choses vont changer.
Donc les élus ont été consultés pour cette loi? Est-ce que les élus ont été consultés au niveau de l'Interco?
Non, pas
du tout. On ne vous a pas demandé votre avis ou comment est-ce que vous envisageriez de travailler à l'avenir?
Non.
Ah oui?
Non.
Pas de référendum pour demander aux citoyens s'ils veulent? Pas de consultation des élus, au moins qui sont les acteurs sur le terrain?
Pas de consultation directe, mais il s'est tenu au fil des années des assises de la ruralité, des assises des territoires, etc. etc. Après, le législateur, l'État en l'occurrence,
Élu démocratiquement prend les décisions après à l'Assemblée, au Sénat, qui revient
à
l'Assemblée,
exactement.
Etc.
Après, nos députés, nos sénateurs discutent effectivement de ce qu'ils pensent être... le bien fondé pour nos territoires, oui.
Vous avez parlé de ruralité, on y reviendra parce que c'est un point qui me semble très intéressant d'aborder dans cette question des régionales.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays cordais.
Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM Radio. Nous sommes en compagnie de M. Somène, qui est président de la communauté de communes du Ségala Carmouzin, maire de Theys, et également président du pays, anciennement pays de l'Albigeois.
Toujours, PETR, c'est le pôle d'équilibre territorial et rural, d'ailleurs, de l'Albigeois et des Bastides.
Nous parlons aujourd'hui des enjeux que va avoir la régionalisation. Vous savez, ces élections qui sont prévues pour le week-end prochain. Premier tour le 6 décembre, deuxième tour le 13 décembre. Chaque président de la République a voulu sa réforme territoriale, que son nom soit associé à une réforme territoriale, souvent défendue bec et ongle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état, que ce soit de la ruralité ou des problèmes de la France, est-ce que c'est une priorité selon vous, cette réforme territoriale ?
Au sens de l'État, certainement. Après, au sens de l'État, certainement. Si je me place dans le sens de ce que veut l'État, l'État, c'est, dans le cadre de ses réformes successives, ses réformes successives internes, ils ont fusionné un certain nombre de grandes directions, comme la DDA avec la DDE à l'époque, qui nous a donné la DDT, qui est la direction des territoires, au niveau de l'emploi, au niveau aussi des services fiscaux, avec les services de perception, les services des finances ont fusionné aussi. Donc l'État a mené des RGPP, ces fameuses réformes des politiques locales. Donc l'État, lui, dans son principe, c'est de dire à partir du moment où je supprime un certain nombre de services aux citoyens, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse assurer ces services à ma place, dans la mesure où la demande reste forte. Donc, dans ce sens-là, l'État dit, ben, ma foi, si je supprime des services, je dois organiser mes territoires de façon à ce qu'ils puissent avoir, en gros, la capacité de pouvoir maintenir des services. C'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le sens de la loi NOTRe, les régions ont fusionné, les intercommunalités doivent fusionner,
évoluer
dans le cadre d'un grossissement. Aujourd'hui, la barre a été mise à 15 000 habitants pour les intercommunalités avec un certain nombre d'adaptations, mais enfin, a été mise à 15 000 habitants. Donc, d'avoir une taille critique suffisante pour pouvoir assurer un certain nombre de services, c'est-à-dire avoir une capacité de financement suffisante, une fiscalité suffisante pour pouvoir assurer ces services-là en lieu et remplacement de l'État. Et demain, pourquoi pas, c'est inscrit dans la loi NOTRe, avoir les intercommunalités, avoir des conventions, soit avec les départements, soit avec la région, pour assurer une partie à un échelon local des compétences que les départements et les régions ont et ont été confirmées dans ces compétences-là, en tout cas.
En tant qu'élu, donc depuis de nombreuses années, que ce soit au niveau communal, au niveau intercommunalité, est-ce que vous trouvez que ça a un intérêt économique, administratif, de passer à cette régionalisation ?
Le questionnement, la relation souvent des collectivités locales avec la région, voire avec les départements, était aussi une relation de pouvoir obtenir des financements dans le cadre des politiques territoriales que les régions et les départements mettaient en place. Donc c'était surtout ça, cette relation. On avait quand même une relation financière. Le département financier m'aidait à construire ma mairie, m'aidait à construire mon école, m'aidait à construire ma piscine, etc. Un certain nombre de choses comme ça. M'aidait aussi à aménager mon centre-bourg, etc. La question aujourd'hui, mais parce que aussi les régions et les départements avaient une capacité financière, prélever l'impôt. Aujourd'hui, là, c'est un vrai questionnement. Est-ce que cette nouvelle et grande structure ne veut pas être plutôt contrainte de s'occuper des compétences qui lui ont été transférées et de laisser tomber un petit peu les territoires ? J'espère que non. Je pense que je souhaite que non. Mais ce sont de vraies interrogations que l'on peut avoir aujourd'hui. Et pourtant, ces aides-là étaient absolument nécessaires parce que on fonctionne, c'est vrai, à plusieurs vitesses, et notamment dans le territoire qui nous préoccupe. Si je parle du pays de l'Albigeois des Bastides, on est essentiellement rural, donc avec des bourgs-centres comme Cordicy, comme Monestier, Val-d'Hériez, Valence-d'Albi, etc., Villefranche, Réalmont, donc sont des bourgs-centres qui ont une démographie qui est ce qu'elle est, mais c'est pas des centres urbains.
Exactement, oui.
Au sens fort, qui eux développent et pourtant nos territoires et les gens qui les habitent, et nos territoires sont bien vivants.
Et il y a une dynamique qui s'y passe.
Sont bien vivants et sont dynamiques, et les personnes qui demeurent et qui y habitent ont les mêmes besoins que ceux qui habitent en ville.
Mais on a l'impression, quand on lit plus ou moins attentivement cette loi, ou lorsqu'on s'intéresse un peu à cette régionalisation, que cette partie rurale est un peu délaissée. Il n'y a que des grands mots dedans, les intercommunalités, les agglomérations, les métropoles, même si le mot était un peu supprimé parce qu'il venait de Sarkozy. C'était une idée de Sarkozy à la base qui a été reprise, mais sous une autre forme dans la loi. En gros, ce qu'on nous dit, c'est... plus c'est grand et mieux c'est, ou mieux ce sera. Donc on a l'impression que les territoires ruraux seront un peu délaissés, les communes vont céder certains champs d'action aux intercommunalités, ce qui me permet de vous adresser cette question. Est-ce qu'en tant que membre, ou en tout cas président de la communauté de communes, vous trouvez que ça va être plus de travail, ou vous serez plus efficace, ou qu'est-ce qui va se passer en fait là dans les prochaines semaines pour vous ?
Ça va demander plus de travail, oui, ça c'est une certitude. Plus d'investissement, c'est vrai, parce que aujourd'hui la décentralisation fait que effectivement on renvoie au niveau local un certain nombre d'obligations. Il y a de nouvelles compétences obligatoires qui doivent être exercées au niveau des intercos,
par exemple,
mais les intercommunalités en tant que telles sont un outil, à mon sens, au service des communes. Hein. L'intercommunalité, bien son nom, ce sont des communes qui mènent en commun un certain nombre de services.
Et de services.
De points, voilà. Mettre en place un certain nombre de services. Donc il faut qu'effectivement ces services soient rendus aux communes qui les mettent en commun. Sinon ça peut pas fonctionner, ça n'a pas de sens. Moi je crois quand même que l'interco, c'est ça son but. Ça serait presque dramatique qu'au niveau de l'interco soit une collectivité à part entière. Alors c'est vrai que au sens de notre organisation, l'interco qui prélève l'impôt aujourd'hui, la logique voudrait que ses représentants soient élus au suffrage universel direct, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque pour l'instant c'est une représentativité
oui.
Au niveau de chacune des communes. Par contre, cette représentativité au niveau de chacune des communes pose problème quand on crée des blocs intercommunaux très vastes. Parce que si on respecte la grande loi démocratique, ça signifie aussi d'avoir un représentant par commune. Si on a beaucoup de communes, ça fait
beaucoup.
Ça fait une assemblée intercommunale vaste qui est compliquée la gouvernance est compliquée à mettre en œuvre et en place, parce que effectivement, le délégué d'une commune qui pèse le même poids d'ailleurs et normalement que le délégué de notre commune fait que c'est l'exécutif plus au niveau de l'intercommunalité qui œuvre que l'assemblée communautaire. Voilà, c'est un petit peu le drame.
Et c'est ce qui va se passer. Vous avez parlé des intercommunalités qui vont évoluer. Donc on passe la barre de 5 000 à 15 000 habitants avec cette loi NOTRe.
Oui.
Donc les intercos vont être plus conséquentes maintenant.
Plus conséquentes, oui.
Donc les dérogations concernent les zones montagneuses et les zones densément...
Peu peuplé,
donc ça concerne quoi ? Ça concerne peut-être une partie de l'Auvergne, les Pyrénées, les Cévennes, la Lozère.
Ouais, voilà. Mais ce qui va poser des problèmes, encore une fois, de territoires qui vont fonctionner à des vitesses différentes. Parce que si aujourd'hui, parler dans le cadre du sujet hein, qui nous préoccupe de cette grande région, vous imaginez si on imagine demain que, effectivement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui commençait à se passer au niveau de Midi-Pyrénées où il y avait des, c'était à l'échelon d'un, des pays, là, des contrats uniques passés entre les intercos d'ailleurs, enfin, ou les pays en l'occurrence, et la région. Vous imaginez de petites unités communales, est-ce qu'elles seront audibles, est-ce qu'elles seront visibles vis-à-vis de gros blocs intercommunaux qui vont se constituer et vis-à-vis d'une région qui va être un petit peu éloignée. De Toulouse, le petit bloc qui faisait 2000 habitants, à mon avis, il n'était pas très, très, très visible par rapport à, aux métropoles ou aux agglomérations, que ce soit l'agglomération d'Albi pour, concerne le département du Tarn ou Castres. Voilà, mais il est là, quoi.
Oui, pour tous les avantages que l'on nous présente, que cette loi semble pouvoir combler, mais quid des petites communes, de la ruralité, du fonctionnement après entre les élus? Comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'est.
À mon sens, tout intérêt à s'organiser et à s'organiser vite. Pour la bonne et simple raison que si elles ne s'organisent pas, comme je vous dis, elles seront inaudibles et invisibles.
Est-ce qu'à l'échéance du 1er janvier 2016, donc qui va marquer vraiment la naissance de ces futures régions, il y a déjà des compétences qui vont être transférées des communes aux intercommunalités?
Alors, la loi NOTRe
transfère
un certain nombre de compétences obligatoires
comme quoi,
des communes vers l'intercommunalité. C'est par exemple le tourisme. Le tourisme devient une compétence obligatoire des intercos. L'accueil des gens du voyage, le ramassage des ordures ménagères, de mémoire, qu'est-ce qu'on a encore qui est
l'eau, ce sera pour
transféré. Et puis après, en ce qui concerne la qualité de l'eau, c'est un peu plus tard, c'est 2018. Et l'assainissement, c'est encore un peu plus tard, c'est 2020. Mais de toute façon, à l'échelle d'une collectivité, c'est du court terme, 2020.
C'est demain.
C'est demain. Donc il faut quand même que les territoires réfléchissent d'ores et déjà comment ils vont pouvoir intégrer ces nouvelles compétences. Oui, c'est quand même des modifications assez sensibles là, du paysage de l'organisation territoriale. Mais moi, je trouve que c'est une période très intéressante à vivre, parce que ça remet en question un certain nombre de choses. On est obligé d'essayer de réfléchir, de voir comment les choses se font. Alors, ça se fait parfois bien, ça se fait parfois mal. Il y a des réticences, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais au demeurant, personnellement, je trouve quand même que la proximité est importante au niveau de la ruralité, mais la proximité a changé de nature. Avant, il fallait qu'on ait une personne à proximité qui aide dans des démarches, par exemple, etc. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, avec Internet, avec les moyens modernes de communication, la proximité se fait de façon, à mon sens, un petit peu différente.
Mais du coup, là, on a...
Donc, que les territoires changent, pourquoi pas? On dit bien, traditionnellement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais à l'époque, que les périmètres des départements avaient fait, c'était la distance entre la capitale départementale d'une journée de cheval.
Ok.
Aujourd'hui, on n'est pas là. Si on parle d'une journée d'Internet, on va être très loin.
mais là, ce que vous nous décrivez, c'est sûr que c'est plus ou moins ce qui va se passer. Mais donc, du coup, on peut vraiment signer l'arrêt de mort des communes aujourd'hui. Parce qu'elles vont s'occuper de quoi? De l'état civil, des mariages, et c'est tout.
Et de l'espace, quand même. Si vous voulez, quand on prend des grands... Il ne faut pas oublier que... un village, une ville, un bourg, ou si on reste sur la ruralité, un village ou un bourg... Reste, ce sont des groupes d'habitants, ce sont des groupes d'hommes, de femmes qui vivent là, ensemble, qui ont des besoins. Pas mal, comment un centralisme, même à un niveau local, pourra connaître, par exemple, ce qui est bon à Cordes et ce qui est bon à Réalmont. Ce sont bien les gens de Réalmont qui souhaitent avoir un certain nombre de choses, sauf sur de grands services. Je veux dire, le traitement des ordures ménagères à Cordes ou le traitement des ordures ménagères à Réalmont reste sensiblement identique. L'entretien de la voirie à Cordes ou l'entretien de la voirie à Réalmont ou à Villefranche d'Albi reste à peu près identique. Mais par contre, quand même, à un moment donné, il faudra qu'il y ait un maintien d'une forme de représentativité à un niveau local, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que les grands services restent, me semble-t-il, sont assez transversaux.
Mmh. Mais si on a un représentant mais qui est vide de compétences, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un représentant? Si à chaque fois il dit « c'est pas moi, il faut aller voir à Montpellier ou à Toulouse, c'est pas ma faute
». Oui, c'est... oui, non, mais c'est bien que ça va être très, très compliqué. Moi, je suis personnellement assez pour le maintien de toutes les strates possibles de collectivité.
De collectivité.
Ça renforce la démocratie, c'est quelque part. Quand on a un guichet unique ou une porte unique, c'est plus compliqué
c'est plus
que
compliqué,
quand on en a trois, dix ou quinze.
Donc, ça, c'est
sûr. Dans ce cadre-là... me semble-t-il. Donc, oui, les communes, après, c'est la relation du bloc, je dirais, du bloc commune-intercommunalité qui doit jouer une vraie règle du jeu pour pouvoir assurer le maintien de nos communes qui reste quand même, somme toute, la base, le socle essentiel sur lequel ça s'appuie notre République.
Mais c'est dessus qu'on va s'arrêter, sur ces belles paroles qui nous donnent l'espoir, ou en tout cas un peu d'optimisme. Vous avez vu, chers auditeurs, nous avons été très évasifs sur le nom de cette future région, Midi, Roussillon, Languedoc, Pyrénées. Tout ça sera décidé au plus tard pour le 1er octobre 2016, où les nouvelles assemblées régionales devront opter pour un nom définitif. Vous êtes appelé aux urnes le 6 décembre pour le premier tour, le 13 décembre pour le second tour. Je ne vais pas m'attarder sur qui est favori, qui ne l'est pas ou qui monte dans les sondages parce que bon, voilà. Pourquoi aller voter pour une collectivité qui n'a plus que de nom au lieu de rester au chaud chez soi ou aller à la pêche? Monsieur Sommel, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui n'ont pas envie d'aller voter?
Oh, il faut y aller. Alors là, franchement, faut pas hésiter à aller voter, même si c'est pour ne pas s'exprimer, mais... c'est essentiel pour notre démocratie. Essentiel.
Merci,
il
monsieur
faut
Sommel.
Toujours exprimer son avis.
Merci, monsieur Sommel, d'être venu nous voir sur CFM.
Mais je vous en prie.
Merci.
À bientôt. Au revoir.